Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé. Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, deux coups de cœur cinéma aujourd'hui. Le premier sort dans les salles mercredi, ça s'appelle C'est mon homme. Guillaume Bureau, le réalisateur de ce premier film pour le réal, justement, va nous parler de son expérience et de son film dans une poignée de secondes. Nos coups de cœur télé cette semaine consacrés aux 10 ans de Léo Mattei, événement Jean-Luc Reichmann, Nathalie Lecoultre et Juliette Trezzanini, guest de ce double épisode qui sera diffusé jeudi, seront avec nous pour en parler. C'est le grand retour également de la série Je te promets. À cette occasion, la scénariste Brigitte Bémol et la productrice Aline Panel seront avec nous pour nous présenter cette troisième saison inédite. Et puis en fin d'émission, on va parler du film Les Complices qui sortira le 12 avril au cinéma. À cette occasion, Cécilia Rouault, la réalisatrice, sera accompagnée de toute une partie de son casting, William Legbill qui a eu le prix d'interprétation masculine au Festival de Alpes d'Huez. François Damiens, oui, pour la première fois dans Chut, on écoute la télé. Laura Felpin, on va pas s'ennuyer en fin d'émission, je vous le dis. Alors c'est parti, sans plus attendre, voici tout de suite notre premier coup de cœur ciné de la semaine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à C'est mon homme, premier film pour Guillaume Bureau qui est avec nous aujourd'hui, notre invité. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est mon homme, où on y retrouve notamment Léla Becti, Karim Leclou. On y retrouve également Jean-Charles Cliché. Il y a plein de beau monde dans ce film. Et un premier film aussi. Ça, c'est une vraie aventure quand même.
Bah oui, c'est une vraie aventure. C'est une aventure qui a duré plusieurs années, puisque entre le moment où j'ai écrit le scénario et le moment où on a pu enfin tourner le film, et c'est un peu un rêve pour moi. C'est vrai qu'il se concrétise. parce que j'ai fait pas mal de courts métrages avant, et donc c'est vrai que c'est une forme d'aboutissement de faire.
C'est toujours une belle aventure.
Exactement, oui, et surtout une aventure collective, puisque voilà, on est avec une grande équipe. J'ai eu la chance que des acteurs tels que Leïla Becti, Karim Leclou et donc Louise Bourgoin aussi, et Jean-Charles Cliché me fassent confiance et donc s'engagent pleinement dans le projet, soient très généreux, et donc ça c'est vraiment une aventure formidable.
Comment est venue l'idée du thème? On va parler de l'histoire après, mais comment est venue l'idée du thème? On est sur l'après-guerre là, hein, clairement.
Oui, tout à fait. On est en 1920 et en fait l'histoire, le thème m'a été inspiré par deux faits divers en fait. Voilà, donc un fait divers italien et un fait divers français, qui tourne en fait autour d'un homme amnésique qui a été reconnu, disons, par plusieurs familles et par plusieurs femmes comme étant l'un de leurs proches disparus pendant la guerre de 14-18. En fait, il faut savoir que la guerre 14-18, il y a 300 000 soldats en France qui ont disparu, et donc c'est autant de familles qui sont incapables en fait de faire leur deuil. Ça génère des deuils pathologiques, puisque il y a pas de corps, donc on peut pas, il y a pas d'enterrement, il y a pas d'obsèques, etc. Et donc en fait, en 1920, il y a la photo d'un homme amnésique qui paraît dans la presse, et donc là il y a 300 familles qui le réclament comme étant leur proche disparu, et qui le réclament malgré les différences en fait physiques. Voilà, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ça qui m'a touché en fait dans ce fait divers, c'est qu'en fait l'identité de cet homme n'est pas une affaire de science, n'est pas une affaire de preuve, mais c'est une affaire de croyance en fait. Et quand on croit, ces familles croient et revendiquent cet homme comme étant le leur, quand on croit, il n'y a pas de preuve contraire en fait. Voilà.
Alors, on y suit le parcours de Julie, qui a perdu son mari à la guerre, disparu, donc comme vous le disiez, et puis sur une photo dans la presse, elle croit reconnaître son mari. Donc, est-ce que c'est son homme ou pas? En tout cas, elle va pas être la seule à le reconnaître. Alors, est-ce vraiment son mari à elle ou à l'autre femme? Ou tout simplement, peut-être il avait une double vie, on ne sait pas. C'est en tout cas tout ce qu'on va découvrir au fur et à mesure du film. C'est une requête d'identité en quelque sorte. C'est une renaissance aussi un peu pour le personnage de Julie qui était un peu au fond du trou depuis qu'elle avait perdu son mari. C'est à la fois une histoire d'amour, de deuil pas fait, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un très joli film qui a été signé là, Guillaume.
Merci. Oui, effectivement, en fait, c'est un film, c'est une histoire. Donc là, ce fait divers qui m'a inspiré, c'est une histoire en fait qui allie la romance au suspense. Et en fait, c'est ça tout l'intérêt aussi de cette histoire, c'est qu'à la fois, je l'espère, on est voilà pour le spectateur, on est dans une émotion, disons voilà dans l'émotion du film d'amour, du film romantique, mais aussi j'ai fait en sorte voilà que le spectateur soit tenu en haleine voilà sur cette question, qui est cet homme, et cette deuxième question, quelle femme va-t-il choisir, puisqu'il est confronté effectivement à deux femmes, Leïla Bekti, Louise Bourgoin, et qui sont deux choix de vie, d'identité complètement séparés. Et en fait, ce film, C'est mon homme, c'est un film dans lequel, eh bien, c'est le désir qui fait la loi, finalement, parce que la justice va s'exprimer, voilà, mais...
À l'époque, ça se passait comme ça. Quand plusieurs personnes reconnaissaient quelqu'un, c'est la justice qui tranchait son identité.
Oui, tout à fait. Exactement. En fait, oui, le fait divers qui m'a inspiré, en fait, c'est un long feuilleton judiciaire qui a duré 20 ans. En fait, et donc 20 ans, le temps de départager une dizaine de familles, et à la fin deux familles, voilà, qui ne voulaient pas lâcher les armes, voilà, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Et donc effectivement, on s'adressait à la justice, et la justice rendait un état civil en fait à cet homme. Mais est-ce que l'état civil qu'on rend à cet homme, est-ce que c'est la vérité finalement? Et voilà, c'est ce que le film pose comme question. Et en fait, le film montre que peut-être plus que de rendre une identité à cet homme, ce qui est important, c'est de lui rendre une âme. Et je crois que seul l'amour le peut.
C'est vrai, c'est une certitude. Et à cette époque-là, bah, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, bien évidemment. Donc un simple journal, c'était, on va dire, les façons les plus importantes de communiquer, de pouvoir justement peut-être reconnaître des personnes disparues, c'est sûr. Premier rendez-vous, on le disait, premier long-métrage, Guillaume. Et là, on ne choisit pas la facilité quand même, parce qu'on part dans une fiction en costume. Est-ce que ça crée des difficultés supplémentaires par rapport au décor, par rapport aux voitures d'époque, par rapport à tout ça, quoi?
Oui, effectivement, c'est un pari un peu ambitieux, un peu risqué de faire un film d'époque, parce que d'abord, ça coûte plus cher, c'est plus difficile à financer. Donc c'était un peu le parcours du combattant davantage, déjà que ça allait pour un premier film, mais là, ça l'était encore plus. Et après, en fait, eh bien, il a fallu trouver des astuces pour... que tout ça reste malgré tout simple et malgré tout faisable. Et donc c'est vrai que je suis resté sur quelque chose d'assez intimiste, même s'il y a des scènes de cabaret, de chant, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de scènes de rue, par exemple, comme vous parlez de voiture. Et ça, précisément, ça coûte de l'argent, donc on a évité ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on est davantage en intérieur, et etc.
Et les plans sont assez resserrés quand il y a des scènes de ce genre.
Voilà, exactement. Et voilà, mais après, ce qui n'empêche pas malgré tout en fait que le film soit ample et soit romanesque, voilà. Et ça, c'est dû à l'histoire, et c'est dû aussi aux acteurs, Leïla, Karim, Louise, voilà, qui véhiculent tout un glamour, justement, voilà, qui était important pour moi.
Ce trio, vous l'avez pensé dans votre inconscient quand vous écriviez peut-être, ou quand vous pensiez à ce film? Leïla, Karim et Louise sont venus assez naturellement?
Alors non, pas spécialement. En fait, j'ai vraiment d'abord construit l'histoire, et puis ensuite il s'est agi de choisir les acteurs. J'ai d'abord rencontré Karim. C'était voilà la première rencontre, et en fait on a fait des essais ensemble, et il m'a bouleversé immédiatement. C'est vraiment quelqu'un qui provoque une empathie considérable. Il a un regard, il a une blessure, une faille dans le regard. Ses yeux sont vraiment comme un gouffre, et donc il incarne vraiment à merveille cette amnésique. Voilà, tout ce que je cherchais chez lui, parce que son visage est ouvert à toutes les interprétations, en fait, et c'est parfait pour un homme dont on ne connaît pas l'identité. Et puis ensuite, voilà, j'ai rencontré avec Louise Bourgoin, on s'est rencontré autour des chansons, sur le fait que le personnage chante. C'était une chose, voilà, que Louise voulait vraiment.
Donc elle chante vraiment, du coup, dans le film?
Exactement, c'est elle qui chante, et c'est une chose qu'elle rêvait de faire, en fait, voilà, chanter, danser. Donc ça, c'est génial, et notre rencontre aussi a permis d'écrire des scènes aussi, enfin voilà, que je trouve assez fortes. Et Leïla, ça, c'est une rencontre extraordinaire. Pour moi, c'est voilà. C'est la la plus belle rencontre. On s'est rencontré autour de ce personnage donc de femme forte, romantique, de cette très grande amoureuse. Et dans ses yeux, en fait, il y a déjà le feu dévorant de l'amour fou, en fait.
Parce que Julie a jamais perdu espoir de retrouver un jour son mari. Ça se sent, quoi. Le personnage fait vraiment transpirer ça.
Exactement. En fait, c'est un personnage qui est prêt à tout pour son homme. Et Leïla Bekti, elle a cette intensité-là. Et voilà, elle incarne à merveille ce personnage passionné. Voilà. Et donc, quand je dis qu'elle est prête à tout, elle est prête à toutes les choses les moins honorables, disons. Pour elle, c'est une question de vie ou de mort, en fait, de récupérer cet homme.
C'est mon homme. Ça sort au cinéma. Guillaume, merci d'avoir été avec nous.
Merci, merci à vous et bah voilà, bonne projection, enfin en tout cas bonne expérience.
Madame, comme vous le savez, mon patient souffre d'une profonde amnésie. Il ne se rappelle rien, même pas son nom.
C'est moi.
Il ne vous reconnaîtra sans doute pas.
C'est possible que Julien retrouve jamais la mémoire ?
Oui, c'est possible.
Pendant longtemps, je l'ai cru mort. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. T'as pas changé, tu sais. Tu me regardais pareil la première fois qu'on s'est rencontrés. Toutes ces photos, c'est toi qui les as prises. Ça te rappelle rien ? Rappelle-toi. Toi, t'es serveur. T'es photographe. J'ai apporté ça.
J'y arriverai jamais.
Je suis Julien. Toi, c'est Victor Brunet.
Je suis désolé que ça se passe comme ça.
Je vais saisir la justice. Le tribunal décidera si vous êtes Julien Delaunay ou Victor Brunet. Et vous pourrez refaire votre vie.
Je veux pas le perdre une seconde fois, je le supporterai pas. Pourquoi vous faites ça ?
Pour les mêmes raisons que vous. On n'a qu'une seule vie. Je préfère te savoir heureux avec elle que malheureux avec moi.
Tu dois beaucoup m'aimer pour me dire ça.
Est-ce que tu crois ? Bien sûr que je t'aime.
Je veux tout savoir.
T'as jamais douté ?
Jamais. Parfois, je me demande si tu fais pas semblant.
De quoi ?
De pas te rappeler.
Je peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie.
Madame Delaunay venait proposer de t'acheter.
Je t'aime tellement.
Moi aussi, tu m'aimais.
Tu aimes qui ? Je sais pas qui je suis.
Allez, on revient dans une poignée de minutes. Dans un instant, on parle de Je te promets, saison 3, qui revient ce soir sur TF1. On parlera de Léo Mattei également et des 10 ans de la série, jeudi sur TF1. Et puis notre deuxième coup de cœur ciné, Les Complices, en fin d'émission avec François Damiens. Alors surtout, bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Rakatakata, toi c'est mademoiselle ou madame. Tu m'as l'air sympa, dis-moi c'est quoi ton programme. Rakatakata, toi c'est mademoiselle ou madame. Suis-moi pour la vie et je t'appellerai ma femme.
Oh oh oh, madre mia, je te présente mi amore. C'est mi querida, y'a que elle pour m'épauler. Asila, je veux riche, je veux doré. Pour elle j'ai du courage, comme un toriador. Leila, Leila, la vie est belle comme t'es.
Mademoiselle, madame, tu m'as l'air sympa, dis-moi c'est quoi ton programme. Rakatakata, toi c'est mademoiselle ou madame. Suis-moi pour la vie, comme ça je t'appellerai ma femme. Elle sait que je suis in love, des câlins toute la noche. Trop douce, un peu insolente, des bisous dans la coche. Je crois bien qu'on s'est trouvé, nous deux c'est qu'écalope. Moi je fais que innover, dans mes bras mi amor.
retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé. Chute On Écoute La Télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Je te promets, saison 3 qui est lancée ce soir sur TF1. On l'attendait, cette troisième saison. On va démarrer cette spéciale avec Aline Panel, la productrice qui est avec nous. Bonjour Aline.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Brigitte Bémol qui est avec nous aussi, co-scénariste avec Julien Simonet de ces trois saisons finalement. Bonjour Brigitte.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Alors il y a toujours un fil rouge, on a pu découvrir dans la saison dernière comment était mort Paul. Et puis il y a toujours des fils rouges, on le disait, dans cette série. Cette troisième saison que l'on va découvrir en tout cas ce soir, c'est quoi le fil rouge? Est-ce qu'on suit un peu les histoires de la série This Is Us originale? Est-ce qu'on s'en éloigne un petit peu justement pour chercher son identité française? Comment vous l'avez construit en tout cas toutes les deux?
Alors oui, il y a toujours un fil rouge parce que c'est vraiment important sur le plan de la dramaturgie quand on construit une histoire que le spectateur soit vraiment pris de façon très profonde par une thématique qui va le toucher, qui va résonner aussi avec sa propre vie. Et donc si on avait eu dans la saison 1 la construction d'une famille, dans la saison 2 les révélations sur ce père emblématique, comment était-il mort, donc il y avait tout un mystère autour de cette mort et qui avait causé énormément de dégâts au sein de la famille, dans la saison 3 d'un coup, gros mystère. Nouveau gros mystère, c'est-à-dire que là où on pensait tout savoir, on découvre que l'héritage de Paul, donc l'héritage du héros emblématique de la série, qui est joué par Hugo Becker, en fait n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et donc on est là, comme les triplés fêtent leurs 40 ans, la vie avance, ils sont comme nous, ils aimeraient à la fois que prendre des tas de sages décisions, aller de l'avant dans leur vie, et puis ils s'aperçoivent qu'ils pourraient peut-être bien être cloués au sol par un sac à dos rempli de pierres. Et ces pierres, c'est quoi? C'est des mystères autour de la vie de Paul, que tous ignoraient, y compris sa femme, depuis toujours, des zones d'ombre qui n'ont jamais été révélées et sur lesquelles ils vont mettre le doigt. Et en fait, peut-être bien que ces pierres pourraient les ralentir vers cette vie nouvelle qu'ils aspirent tous à avoir. Donc voilà, c'est ce qu'on va découvrir au fil de cette saison.
On garde quelques libertés, Aline, quand on adapte une série comme This Is Us, qui est un monument aux États-Unis aujourd'hui, qui vient de fêter sa dernière saison. Ou alors, il faut vraiment rester dans les coulisses. Le studio donne vraiment un cahier des charges très précis qu'il faut respecter pour être le plus proche possible, en gros, de l'histoire originale.
Non, on ne se sent pas du tout enchaîné. On est très libre. On a été choisi sur un projet d'adaptation qui est notre guide à nous et qui a été validé au départ par les ayants droit d'origine. Et après, on garde le meilleur. On garde la substantifique moelle, le concept de la série. On aurait bien tort de s'en séparer. Et le reste, c'est l'adaptation organiquement. D'abord, là, cette année, on n'est que sur 8 épisodes. Donc forcément, il y a de l'adaptation pour passer de 18 à 8, par rapport à nos comédiens, à nos désirs à nous, à tout ce que j'ai déjà expliqué les saisons précédentes, à savoir la France, la culture française, la géographie française, les métiers français, etc. Donc voilà, donc on est entre les deux, mais je pense, enfin je parle pour moi, mais je crois que Brigitte est d'accord, on se sent très libre dans notre écriture. Et après, moi je m'occupe de faire valider toutes les étapes aux ayants droit d'origine, à savoir Disney, et ça se passe très naturellement, très bien, on a les validations à chaque étape.
En tant que productrice, tu es surprise de voir cette base fan autour de Je te promets. On a eu l'occasion d'organiser, nous, justement début janvier, une avant-première. On a refusé quasiment autant de monde qu'on a pu en prendre, et pourtant on avait 750 places. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que cette série, même si elle a des audiences qui sont pas non plus mirobolantes, il y a une base fan qui a un intérêt pour cette série qui est absolument indéfectible depuis le tout début. Comment on explique ça?
Bon, moi, je suis pas surprise parce que j'ai eu les droits de la série parce que j'étais une fan de la première heure et très très déterminée à pouvoir arracher les droits de l'adaptation. Je suis pas surprise parce que ça touche éminemment au cœur de ce que les gens en vivent. C'est pour ça que je trouve que c'est pas une série triste ou anxiogène. C'est une série qui donne de l'espoir et qui rejoint les gens là où ils en sont tous dans leur vie lorsqu'ils traversent des deuils, des séparations, des rivalités de fratrie. Ça, tout le monde le vit et donc c'est ce qu'ils y retrouvent. Et c'est pour ça que je dis toujours, cette série, ceux qui aiment, l'aime énormément. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Moi, j'ai commencé par la série, donc j'en ai fait des séries. C'est ma série préférée de tout ce que j'ai fait. C'est vraiment mon enfant préféré. Et c'est aussi, je remarque autour de moi, ce que tu appelles la base fan ou la fan base. Effectivement, je pense qu'ils ressentent la même chose, c'est-à-dire que c'est une série qu'on regarde pas de la même façon que d'autres séries. Quand on l'aime énormément.
Je pense parce qu'on est nombreux à pouvoir s'identifier dans des situations, puis on passe par tous les états en regardant cette série. C'est-à-dire à un moment donné, il va y avoir vraiment des grandes séquences d'émotions qui vont être très très fortes, et ça c'est vraiment aussi le côté magique de cette série, où on va avoir des moments de rire aussi, des soupapes. On passe un peu, bah, comme dans la vie, tu le disais, par un peu toutes les émotions. Ça c'est la magie aussi de l'auteur, du coup.
Disons que merci, mais c'est vrai que c'était l'ADN quand même de la série originale, c'est-à-dire c'était vraiment du vrai drama avec des énormes séquences d'émotions, et puis savoir désamorcer, justement n'être pas dans le pur drama, mais dans du néo-drama, ce qu'on appelle, et savoir désamorcer les moments extrêmement émotionnels et presque douloureux vers justement le rire, parce que c'est ça dans la vie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en fait on est naturellement guidé en tant qu'auteur, parce que nous aussi, enfin mon co-auteur et moi, on était on faisait partie de la fan base de cette série, et que en fait c'est une série, voilà, qui parle vraiment de la vie, qui parle de la façon dont la vie fonctionne, et elle est la même pour les personnages que pour nous. C'est une série où il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de truc. Les héros sont parce qu'ils traversent des épreuves et qu'ils réussissent à en sortir grandi, et ils nous montrent le chemin. Et tout le monde se retrouve dans ça, parce que tout le monde, la vie est faite ainsi que, en fait, on traverse tous des épreuves. Et avoir comme ça ces personnages qui, en dépit de tout ce qu'ils vivent, en dépit de toute leur névrose, de toute leur faille, de tout leur errement, ben en fait, ils trouvent la lumière. Et ils nous disent, il y en a toujours un qui va dire, il y a quand même le petit point de lumière, allons vers ça, et finalement, ils s'en sortent. Et donc, ils sont comme un exemple, juste comme un phare dans la nuit, comme un super-héros auquel on a envie de s'identifier, de dire, moi aussi, peut-être, je peux croire à cette lumière. Et donc, c'est vraiment une très belle série humaine sur la résilience, sur montrer le chemin de la résilience, parce que c'est pas juste de dire en fait la vie peut être belle, c'est montrer comment on peut y arriver. Ça montre le chemin pour y arriver, et je crois que c'est ça qui touche énormément les gens. Et donc nous-mêmes, quand on invente énormément de lignes en fait sur les personnages, parce que comme le disait Aline, ils sont français, donc ils pensent pas pareil, ils ont plus de pudeur, ils abordent pas les émotions de la même façon, mais on va réarquer les choses avec la même âme que la série américaine, c'est-à-dire de toujours avoir ce truc où en fait au fond on va trouver la lumière, on va passer par des sales moments, on va serrer les coudes, on va se disputer, mais au fond, à la fin, on va trouver la lumière. Et c'est vraiment une série qui parle de ça, et ça, ça touche tout le monde. Et donc, nous, on s'amuse beaucoup à vivre tout ça, parce qu'on vit à travers tous nos personnages, toutes les vies, et donc c'est super plaisant à écrire, honnêtement.
Petite réaction à ce que dit Brigitte.
Moi, je partage vraiment en tout point ce qu'elle dit. Et puis, oui, trouver la lumière, le chemin pour trouver la lumière, c'est aussi des valeurs qui sont importantes pour moi et que je partage avec les auteurs. C'est Authentic Prod aussi, c'est aussi nos acteurs, hein. C'est-à-dire, il y a une vérité, il y a quelque chose de pas magique, voilà. C'est pas la vie s'arrange toujours, c'est la vie s'arrange parce qu'il y a du courage, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la générosité, parce qu'il y a de l'inclusion, enfin.
Voilà, c'est une série qui est profondément humaine. Et moi, ce que je rajouterais, mais on le dit à chaque saison, parce que ça, c'est la thématique de base de la série. C'est une série qui parle d'intégration, qui dit au départ, toi, tu es noir, donc t'es pas tout à fait comme nous, est-ce qu'on va vraiment t'inclure dans notre famille, est-ce que dans la société, du coup, en métaphore, est-ce que dans la société, c'est si facile pour toi de t'intégrer? Toi, tu es grosse, toi, tu es moche, toi, tu es footballeur, alors que tu voudrais être comédien. Personne n'est jamais comme il faut. Et en fait, on montre que cependant, le chemin, on le fait tous le même. Donc, ça sert à rien de dire, parce que toi, tu es différent, en fait, tu vaux moins ou je dois te rejeter. Au final, la série montre, qui que l'on soit, en fait, on a tous des embûches qui sont les mêmes, en fait. On doit tous faire le chemin si on veut s'en sortir. Et donc, quelque part, c'est aussi ça qui fait la magie de cette série, et ça, c'est la série américaine qui propose cet ADN-là, hein. C'est très fort d'avoir une série qui puisse avoir un message aussi fort, en fait, de dire non, on est tous pareils, qu'on soit arabe, noir, gros, fille, garçon, jeune, petit, maigre, nain, peu importe. En fait, on traverse tous les mêmes douleurs. Et en fait, quand on est un peu compris par l'autre, ça va mieux. Et la série montre ça.
Alors Authentic Prod, c'est aussi Sam. On va en dire un petit mot parce que Sam va connaître une nouvelle vie à nouveau. Et c'est vrai que tu te bats à chaque fois comme une lionne pour faire perdurer tes projets. Donc quand Natacha a souhaité justement arrêter la série, il a fallu effectivement convaincre TF1 de changer d'actrice. Et donc c'est Hélène de Fougerolles, hein, on trahit pas un secret, qui va endosser ce rôle de Sam. Et du coup, on va retrouver une nouvelle Sam à la rentrée, Aline.
Et oui, et j'en suis très fière, c'est mon deuxième bébé préféré, hein, Sam. Et donc ravie que ce soit Hélène de Fougerolles, que j'aime beaucoup. C'est aussi une longue histoire avec Hélène, qui reprenne le rôle, que j'avais anticipé un peu, puisque maintenant on a un nouveau dispositif, l'école est tout à fait différente de ce qu'elle était avant, est située à la campagne, dans un milieu donc différent. On a encore plein de choses à raconter, et voilà, mon ambition est avec Hélène d'aller sur encore beaucoup de saisons à cette série qui continue justement en explorant différents milieux, différentes façons d'instruire, différentes façons de concevoir le métier de prof, d'être tout le temps en phase avec notre époque et avec nos questions contemporaines.
On va découvrir ça très bientôt, en tout cas pour l'instant. Ce soir, c'est Je te promets, saison 3, que l'on va découvrir avec plein de nouvelles histoires, évidemment, qui vont nous occuper pendant 4 lundis d'affilée sur TF1. Et puis la semaine prochaine, pour les épisodes 3 et 4, on viendra avec les triplés, mais ado, ce coup-ci, vous parler effectivement des épisodes dans lesquels ils vont être et de ces belles histoires, de ces beaux rôles qu'ils interprètent dans leur rôle, évidemment, de Marie Louberry, de Narcisse et de Guillaume Labbé. Ado, donc ils seront là tous les trois. Merci en tout cas à toutes les deux.
Merci Alain.
Merci Alain.
Et à très vite.
Bon, alors vous êtes prêts?
Ouais.
Première question, comment vous vous imaginez quand vous serez grand?
Eh, bon anniversaire, vieux crouton.
Bon anniversaire, mon vieux.
Merci, mon prochain, toi aussi.
Je viens d'avoir 40 ans là et je l'entends bien, hein, le tic-tac de l'horloge.
Si on veut savoir, on n'a pas le choix, il faut y aller. Qui vient avec moi?
Vous savez, dans la vie, on a tous eu un accident de parcours. Et si on s'entraide, on peut dépasser tout ça. On peut écrire une autre histoire. Une belle histoire.
Vous allez adorer les retrouver. Je te promets, nouvelle saison, bientôt sur TF1.
Et dans nos coups de cœur télé cette semaine, mercredi, vous allez pouvoir suivre la deuxième saison très attendue de la série L'école de la vie. Après Guillaume Labbé, c'est donc Julie Debona qui va incarner la prof principale de cette saison fil rouge qui va lui être consacrée. Une saison haute en émotions, bien évidemment, qu'on va découvrir dès mercredi à 21h10 sur France 2. Pour 3 mercredis à la suite, vous découvrirez les 2 premiers épisodes en tout cas. Voici tout de suite un extrait rien pour vous.
Bonjour tout le monde! Alors, l'exercice consiste à dire la comptine pirouette-cacahuète, mais en mettant l'accent sur une seule émotion.
Pirouette-cacahuète, forcément ça marchera pas. Ouais.
Il était un petit homme! Pirouette-cacahuète! Voilà.
Pourquoi ta famille d'accueil a pas signalé ta fugue?
Parce qu'ils en ont rien à foutre.
Et moi, pourquoi t'es pas venu me voir?
Parce que j'ai l'habitude que tout le monde s'en foute.
Moi, je m'en fous pas de toi.
Comment est-ce que je peux vivre dans un monde où il est plus là?
Là, pour l'instant, la douleur est trop forte. Mais je te promets qu'avec le temps, ça va s'estomper.
Madame, vous savez, c'est la première fois que je parle à un prof sans qu'il y ait une heure de colle derrière.
Et donc?
Je trouve ça pas si désagréable, en fait.
Hey, pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal? Viens, plus près que je te soigne. Hey, qu'on se fasse du mal, mêle ta vie à ma vie, on pourrait se tenir chaud, se lisser les plumes et se trouver beau.
Mon métier n'a aucun sens si je me bats pas pour aider quelqu'un comme toi.
À tout âge, on apprend. L'école de la vie rouvre ses portes avec une saison 2 inédite. Dès le mercredi 5 avril à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Et notre coup de cœur télé sans conteste assuré jeudi soir pour Léo Matti qui fait son grand retour. Et on va fêter dignement cette 10e saison avec Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Juliette Trezzanini va nous rejoindre également dans un instant. Ça sera une des guests de cette première soirée qui nous attend jeudi à 21h10 sur TF1. C'est reparti pour une toute nouvelle saison et la 10e. C'est pas rien. Est-ce qu'on pouvait imaginer, tous les deux, parce que vous avez créé cette série, qu'on serait là encore 10 ans plus tard? Nathalie, c'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue, surtout que c'est tellement compliqué de créer, d'exister, d'avoir le résultat. Parce que si t'as plus le résultat, ben tu n'es plus là. Et on se bat, on travaille beaucoup. On est très exigeant et le travail se mérite. Et puis après, voilà.
Là, il paye, le succès, il est là. En plus, le public, il est là. Il est là chaque saison et toujours plus nombreux. C'est ça aussi le plaisir. Et puis c'est surtout un sujet qui vous tient très à cœur, tous les deux, justement. C'est pour ça que vous avez créé aussi cette série. C'est dénoncer tout simplement tout ce qui peut être fait aux enfants et les prédateurs aujourd'hui. Et ça, je sais que voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous en tout cas.
Oui, ça c'est intéressant ce que dit Nathalie. Elle dit on travaille, mais en fait on n'a pas le sentiment de travailler. Parce que au début on se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'on pouvait laisser comme trace. Aussi nous, voilà, on a 6 enfants, dont 4 encore à la maison sous notre toit. On en a élevé 4 et je crois que c'était important pour nous de s'investir dans quelque chose communément. Alors effectivement, c'est un combat, c'est une lutte. C'est même plus du travail, c'est notre quotidien et c'est comme ça. C'est vrai qu'on dort avec, on s'endort avec, on se réveille en pleine nuit, on a mal dormi. Et ça nous arrive tous les jours au quotidien parce que qui les histoires, qui la lumière, qui la musique, etc. Donc c'est vrai que, comme vous dites, si justement c'est devenu notre combat parce qu'il faut jamais rien lâcher. Alors nous, on se dit que plus on va en parler... Et plus peut-être on mettra des petites pierres aux édifices en disant que, eh ben voilà, comme quand on nous dit, eh ben, on en a parlé dans les cours de récréation, tiens, il s'est passé quelque chose. Et puis de plus en plus, que ce soit sur la toile où il y a des prédateurs partout, que ce soit bien évidemment dans le quotidien, dans le boulot, dans la famille ou à l'école, eh ben on peut en parler de plus en plus. Et ça veut dire que c'est de moins en moins tabou si on en parle de plus en plus. Alors si nous, avec Léo Mattei, on a pu apporter cette petite pierre à l'édifice, on en sera heureux et on se sera senti
utile.
Donc oui, on est là, on se dit à la fois qu'on se fait plaisir, hein, il faut pas l'oublier. Donc voilà, moi ça me remplit de joie.
Nathalie, petite nouveauté à la réalisation pour cette 10e saison.
Oui, j'avais déjà fait le dernier épisode la saison dernière et là
on y prend goût.
Ah bah j'adore. Et en plus, pour continuer ce que disait Jean-Luc, c'est que je trouve aussi qu'on donne de l'espoir. On essaye de donner de l'espoir dans nos épisodes. C'est pas noir. C'est qu'on montre quand même là toutes ces femmes soudées malgré l'enfant qui a disparu. Elles s'entraident. Et puis il y a de l'humour, de l'humeur. Enfin. On essaye aussi de pas être trop noir, quoi. Les gens se retrouvent aussi un petit peu.
C'est très familial, c'est
voilà,
ça qui est bien.
Voilà, je pense qu'on peut le regarder même en famille, quoi. Au contraire, et vraiment en parler, quoi.
Il y a des nouveaux personnages, Jean-Luc, dans cette nouvelle saison. Un dénommé Maurice, on dira pas qui c'est, mais ça va être un personnage central dans cette 10e saison, Maurice.
Il fallait vraiment choisir quelqu'un qui avait du caractère, de la personnalité, comme vous avez pu le voir. Et on s'attendait pas à Maurice, on s'attendait pas à ça. Et là, je dois vous avouer, en plus, c'est vraiment un personnage, comme vous le savez, on peut pas en parler parce qu'il faut pas spoiler. Mais voilà, c'est une espèce de confident qui est là en permanence. Et je pense que les téléspectateurs seront heureux parce que ça apporte une petite note également d'humour. Donc si on peut apporter une espèce de petit décalage et une petite note d'humour... Moi qui essaye de donner de la joie et un peu d'humour aux gens à mon petit niveau, eh ben je serai heureux.
Voilà, vous allez voir que Maurice, en termes d'intelligence, il en a dans le bocal. Nathalie, on va parler des guests de cette saison en fil rouge. Alors jeudi, on aura Firmin Richard, Juliette Trezzanini, Rebecca Benamour. Il y aura et je vous mets au défi de Laurie, bien sûr, Laurie Pester, c'est vraiment le groupe soudé. Je vous mets au défi aussi de repérer la chevelure de Khaled Alouache aussi. Nous, on l'a repéré. Vous verrez, mais il y a Stéphane Hénon, il y a plein de beaux monde qui viennent. En tout cas, vous faire le plaisir aussi de participer à cette série.
Ben, nous avons aussi Xavier Deluc, Estelle Lefébure et Jérémy Banster.
Tu prends le monde.
Voilà, ouais.
On va planter le décor d'ici quelques instants avec Juliette, mais c'est l'enlèvement d'un enfant qui va être le feu aux poudres dans une maison de famille qui accueille des mamans avec leurs enfants. Et puis évidemment, comme dans toute bonne enquête, le premier suspect sera pas forcément celui qu'on croit, mais on va voir effectivement comment va se dérouler tout ça pour retrouver cet enfant. Et puis évidemment, que dans Léo Mattei, ce qu'on aime avant tout, c'est que souvent tout est bien qui finit bien, et c'est ça aussi qui est important, même si c'est pas toujours comme ça dans la vie.
Bah oui, c'est pour ça que je vous disais, on essaye de donner de l'espoir, et en fait, en plus, il s'appelle la Maison de l'Espoir. Donc voilà.
Est-ce que vous avez fêté cet anniversaire dignement quand même, cette 10e saison dignement, mon cher Jean-Luc?
Disons qu'on l'a fêté, on a voulu cette 10e saison feu d'artifice un petit peu. C'est-à-dire qu'on s'est dit, enfin moi je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben on a invité que des amis. Et le fait est que cette première soirée, c'est Laurie, bien évidemment, c'est Rebecca Benamor, c'est... Juliette Tresani, c'est vraiment des personnes de qualité, avec une Firmine Richard resplendissante et vraiment d'une justesse hors pair. Dans la deuxième soirée, effectivement, Jérémy Banster, Xavier Deluc, Estelle Lefebvre, toutes des personnes avec Stéphane Hénon, parce qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route en ce moment les personnes qui en ont besoin, qui sont partis de plus belle la vie et puis qui, à un moment donné, font partie du paysage audiovisuel français.
Qu'on a envie de voir et que les fans ont envie de voir dans autre chose, il ne faut pas l'oublier.
Bien évidemment, et c'est pour ça que ce sont des très 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 bons comédiens. Et on s'est dit, non, il ne faut pas les laisser sur le bord de la route, c'est pas maintenant. Alors oui, on est sur TF1, oui, ils étaient sur le service public, et alors? Et puis dans une troisième soirée, là vous allez vous régaler, parce que ce sont des gens que j'aime, d'où cette 10e saison Feu d'Artifice. Avec, en plus de Lola Dubinis, Tommy Bugsy, etc., on a vraiment une comédienne que je pense que vos auditeurs ne connaissent pas beaucoup, mais bon, c'est comme si c'était ma grande sœur dans le métier, c'est Mimi Mati. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un que les gens ne connaissent pas obligatoirement, et comme vous disiez, il faut sortir un petit peu de leurs univers, et vous allez voir, elle est hyper touchante, hyper surprenante, avec une émotion... sans trop en faire, avec une justesse dans la comédie fantastique. Et puis on a eu aussi le coup de cœur, parce que ça pouvait pas en être autrement, de Philippe Basse. Philippe qu'on en connaît bien évidemment dans toutes ses frasques folles et sportives. Et Philippe Basse est un homme fantastique que on adore. Vous allez voir, cette 10e saison, elle est dingue.
Et bien, on va continuer à en parler dans un instant. On va se quitter avec la bande-annonce pour le moment, et juste après, Juliette Trezanini nous rejoint. On continue à parler de ce 10e anniversaire de Léo Mattei. Merci Nathalie, merci Jean-Luc, en tout cas d'être venu nous voir, ça nous fait super plaisir. On va fêter ça avec vous pendant 3 semaines, la semaine prochaine, ça sera Tommy Bugsy également qui sera notre invité. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci, et vive la région Midi-Pyrénées, Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, vive le Sud-Ouest libre.
Alors Romain, c'est pour qui le gros nounours?
C'est pour moi.
Ah, ça fait longtemps que tu le voulais celui-là. Hein,
bon, c'est quoi le prochain manège?
Comme si on savait pas déjà.
Le train fantôme.
Allez, on y va.
Tu veux pas?
Salut bonhomme. Merci. T'es tout seul?
Ouais. Non, je prends mon nounours.
Tu mets ton nounours à côté, comme ouais. Ça tu seras pas tout seul.
Let's go.
Mais Romain, il était bien dans ce wagon là.
Romain! Madame, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas vu un petit garçon, il était à côté du nounours?
Non.
Romain! Non, madame, vous pouvez pas y aller. Madame!
Romain! Tu l'as vu, toi, mon cœur?
Non.
Tu l'as pas vu? T'es sûre? Alors?
Il n'est pas là. Romain! Romain, excusez-moi, madame, vous avez pas vu un petit garçon?
Non.
Mon fils a disparu.
Et on continue à parler de Léo Mattei. En fait, cette 10e saison, comme il se doit, avec une des guests que vous allez voir, évidemment, qui sera aux côtés de Laurie et de plein de beau monde, en tout cas, jeudi sur TF1. C'est Juliette Trezanini. Bonjour Juliette.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous, guest dans Léo Mattei. C'est chouette, hein, une série de Jean-Luc Reichmann. Ça plaît toujours à beaucoup de comédiens, en tout cas, d'aller faire une visite dans cette série.
Ah, c'était formidable, surtout que l'aventure a commencé à Luchon quand j'étais jury. Je leur ai dit ô combien j'aimais cette série et j'aimerais bien un jour être guest. Et ils n'avaient pas oublié et ils m'ont proposé le rôle cette année. Donc je suis ravie.
Alors très engagée évidemment cette série dans la protection des mineurs, puisque c'est aussi bien sûr le but de cette série, encore plus pour cette 10e saison, 10 ans de succès. Alors raconte-nous un petit peu ce guest qui nous attend jeudi.
Alors c'est sur la maison des femmes, donc c'est engagé aussi auprès des femmes victimes de maltraitance, de violence. L'épisode est exceptionnel, je peux pas vous en dire trop parce que mais c'est aux côtés de Firmine Richard, il y a Rebecca Benamour, il y a Laurie comme tu l'as dit très bien, et puis la brigade qu'on connaît avec Lola Dubini, Jean-Luc et Nathalie Lecoultre qui réalisait.
Oui, alors, il va y avoir une histoire d'enfant qui va disparaître pendant une fête foraine, hein, c'est ça?
Exactement, t'es très bien renseignée et on va passer pas mal de temps à le chercher. Et moi, je suis une des femmes qui travaille bénévolement dans la Maison des Femmes avec Laurie et Firmine étant notre directrice.
Qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce rôle?
Alors c'est un rôle magnifique, déjà parce que c'est engagé et que c'est toutes des bénévoles et elles s'occupent des autres. Et puis vous allez voir, il y a des twists, il y a des rebondissements. En fait, j'ai été très très surprise. Je trouve que l'enquête est très très bien écrite, très bien menée.
Enquête bouclée sur deux épisodes, ça termine toujours bien généralement Léo Mattei quand même, donc on peut toujours espérer quand même que ces histoires finissent bien. Mais on est avant tout dans cette série dans la prévention. C'est ça qui est quand même aussi plaisant et on peut malgré tout la regarder en famille, sans problème.
Ah oui, on peut sans problème la regarder en famille, c'est très bien traité et au contraire, ça permet de faire en sorte que les gens se parlent, c'est de la prévention aussi pour les enfants. Donc non, c'est très familial, c'est très joliment évidemment bouclé et non, ça se termine pas mal.
T'as retrouvé Laurie? Dis-moi, ces retrouvailles.
Mon Dieu, écoute, on est tellement amis. Mais en fait, Jean-Luc et Nathalie, je tiens à dire, on crée une ambiance sur le tournage telle que la journée, on tournait avec eux et le soir, on était invités chez eux à manger, à danser. C'était hyper festif et on est devenus inséparables. Quand j'ai revu Firmine, Richard, là, dans le jury, on s'est pris dans les bras, mais pas deux secondes, mais 10 minutes, tellement on a vécu des choses extrêmement joyeuses. Donc Jean-Luc et Nathalie, c'est vraiment le meilleur plateau, le plus familial, en tout cas, que j'ai pu rencontrer.
Il y a une bonne ambiance sympathique. Il y a un souvenir à nous raconter, une scène qui a été peut-être drôle à tourner ou un moment particulier qui restera gravé sur ce tournage pour toi?
Drôle à tourner, bah oui, en fait toutes, puisque en fait on est toutes ensemble les femmes. Alors encore une fois, je peux pas raconter trop de choses parce que vraiment l'intrigue est tellement surprenante que si je vous donne une information, mais je tiens à dire que c'était vraiment les après-soirées, enfin les après-tournages qui étaient formidables, où on mettait la musique avec Jean-Luc et on dansait tout autour de la table, on était que 8 et on finissait à pas d'heure, alors que le lendemain matin on tournait, on était frais et dispo. Donc comme quoi on peut et s'amuser et travailler dur.
Et respecter effectivement l'engagement et le travail de toute une équipe, et ça c'est chouette. Nathalie Ecoultre qui passe à la réalisation pour ces deux premiers épisodes en tout cas de cette saison. Alors allez, comment Nathalie, puisqu'on là on vient d'avoir avec Jean-Luc, on va voir un petit peu le côté guest pour voir comment elle est Nathalie réalisatrice.
Bah, elle est odieuse, hein. Elle déteste les femmes. Non, je les sens. Elle est... non, alors elle est excessivement positive. On dirait une américaine. Enfin, en tout cas, tout est. Elle prend nos propositions. Elle les amène encore plus loin parce qu'elle est aussi exigeante. Même si elle était très contente de ce qu'on lui proposait, elle nous amenait plus loin. Et elle crée vraiment un esprit d'équipe. Elle nous autorisait aussi à faire des impros. Et ça, moi, j'adore ça. J'adore quand on peut. Et respecter le texte et encore aller plus loin, proposer des choses. Elle a gardé aussi des petits moments de folie, des petits accidents qu'il y a eu entre nous qu'elle a trouvé extrêmement naturels et qu'elle a laissé au montage.
Eh bien, on va découvrir ça jeudi prochain. C'est la 10e saison de Léo Mattei qu'on fête sur TF1 21h10. Merci Juliette en tout cas d'avoir été avec nous. On termine par les projets 2023. Il y a des petites choses qui se préparent. Un tome 2, ces phrases qui changent la vie. Tu y travailles ou pas?
Alors, c'est en pourparlers. Mais pour l'instant, rien n'est officiel. J'aimerais beaucoup le faire à l'international. Donc, interviewer cette fois des personnalités hors de l'Hexagone. Donc, c'est possible. C'est possible que ça arrive. J'ai aussi un film que je termine d'écrire avec Laurent Firode.
Ça sera pour TF1, je crois.
Alors, on va le proposer aux chaînes. Là, pour l'instant, on est au niveau du synopsis et du traitement. Et on sait ô combien c'est long le processus d'un film. En tout cas, il y a cette satisfaction d'aimer notre histoire très fort. Et puis après, y a d'autres choses, mais qui sont pas encore signées. Mais en tout cas, j'ai passé beaucoup de castings pour plein de chaînes différentes avec de très jolis rôles cette année. Donc je sens que 2023 va être de bon augure pour moi.
Bon, pas de retour dans Demain nous appartient pour l'instant?
Pas pour l'instant, mais je ferme pas la porte et eux non plus, vu que je suis que en Guadeloupe et que je ne suis pas morte, tout est possible.
Et ben voilà. Merci beaucoup Juliette d'avoir été avec nous et on se dit à très bientôt.
Merci Alain.
Léo Mattei, c'est jeudi à 21h10 sur TF1 pour ce grand début de saison à ne pas manquer. Et dans un instant, on va parler du film Les Complices qui sortira le 12 avril au cinéma. La réalisatrice Cécilia Rouault sera avec nous dans un instant, accompagnée de François Damias, Laura Felpin et William Legbill. Alors surtout, bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Mais je dormais pas, je m'ennuie seul dans ma tête et sans trop douter, je me répète. Oh, respire-moi. J'ai peur de t'avouer, je veux négocier comme un playback. je pense. Troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence. Je danse, les cauchemars, mes fleurs, a brisé mon cœur et dans la souffrance. Prudence, je voudrais tout défaire et les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense. J'ai passé des nuits, j'ai passé des heures, mon cinéma. Toutes mes erreurs ont bien en valeur. Je voudrais tout défaire et les yeux ouverts, seul dans le silence. Je pense.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui, c'est pour Les Complices, le nouveau film de Cécilia Rouault qui est avec nous. Bonjour Cécilia.
Bonjour.
Et qui est venue avec toute une partie de son casting aujourd'hui, Laura Felpin qui est avec nous. Bonjour Laura, que moi j'aime beaucoup sur scène, j'aime beaucoup l'humoriste aussi que tu es. Merci d'être avec nous Laura.
Merci de nous recevoir.
Et puis William Legbill qui est un habitué de l'émission, j'adore ce garçon qui est là avec nous. Bonjour William.
Bonjour, bonjour à tous.
Et on va être rejoint par François Damiens dans quelques instants. Une comédie déjantée, l'histoire d'un tueur à gages qui va se nouer avec un couple improbable à qui il va demander de l'aide, enfin sans trop le demander, mais qui va se faire aider par ce couple sans histoire, on va dire en quelque sorte, et il va en être tout plein d'aventures évidemment, avec un final très inattendu qu'on vous laissera découvrir en allant voir le film. Une belle histoire initiée, Cécilia, de quelle manière, quelle est un peu la genèse de ce projet?
Alors la genèse de ce projet, c'est que moi je souffre de malaise vago quand je vois du sang, et je me suis demandé dans quel... Bon, c'est très rigolo parce que en fait je tombe dans les pommes, il faut que j'ai les jambes en l'air, enfin c'est absurde, mais moi ça me dérange pas trop dans ma vie parce que je le sens venir et voilà, mais je me suis dit que si j'avais un métier qui nécessite de voir beaucoup de sang, ça serait sans doute un problème, et notamment si j'étais tueur.
Et donc t'as choisi tueur, mais en fait t'aurais pu choisir
chirurgien. Oui, mais ça aurait été moins drôle au niveau de l'aventure.
Alors qu'un tueur à gages qui a peur du sang et qui s'évanouit à la moindre de ses missions, c'est quand même très drôle déjà de base de postulat.
Voilà, c'est ça. Et comme le but c'était quand même de faire un film drôle, et ben voilà, je suis partie de ce postulat. Et puis après j'avais envie de parler de la gentillesse. De cette vertu de gentillesse que ça a l'air stupide, mais c'est quelque chose d'essentiel au rapport humain, aux rapports sociaux, et de faire rencontrer ce a priori très méchant avec des gens extrêmement gentils. Je me suis dit que ça pouvait créer quelque chose, une dynamique intéressante, et nous permettre de raconter une histoire de gentil tout en riant beaucoup et en étant parfois ému.
Ce tueur à gages qui vient perturber un peu justement ce couple, on sent à l'écran, ça transpire. Ce couple, on sent un amour indéfectible. C'est-à-dire que quand on les voit tous les deux, on n'imagine pas un instant qu'un jour ils puissent se séparer, tellement ils ont l'air soudés tous les deux.
Bah, c'est vrai qu'on s'aime beaucoup, hein. Ouais, je connaissais un peu. Et c'est vrai que c'est
amoureuse de moi.
je crois qu'on est un peu amoureux l'un de l'autre, mais qu'on peut pas trop le dire. Non, ben, on avait déjà tourné ensemble. Il y avait déjà eu une super entente. Puis en plus, on avait commencé quand même par tourner avec des scènes qui étaient très dans l'intimité, en fait, un peu de sexualité. Et du coup, on a très vite rentré dans une intimité parce que c'était hyper gênant de se rencontrer puis, comme ça.
Ouais, c'est une complicité, ouais. Du coup, vraiment une vraie complicité, quoi. Et on se marre vraiment ensemble.
Oui.
Et effectivement, ouais, c'est ça, c'est un couple. En plus, quand on lit le scénario, c'est vraiment ça. On se dit, ils vont aller au bout ensemble. Il y a pas de.
Ils sont pourtant très différents tous les deux.
Ils sont très différents, mais ils se complètent et ils se. À un moment donné, par exemple, elle aimait le fait qu'elle est un peu triste dans sa vie et qu'elle se fait chier. Et on sent que c'est pas contre, enfin que c'est pas dans son couple que ça va pas, c'est que c'est.
Enfin, c'est sa vie en général.
Ouais.
On accueille François Damien qui vient de nous rejoindre. Bonjour François.
Bonjour. Je rebondis sur ce que dit William. Il a dit tout à l'heure une phrase qui était vraiment. Je vais essayer de la faire mienne. Il a dit la gentillesse c'est une force. Et je trouve qu'il a tout à fait raison. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Parce que moi je trouve que c'est la plus belle des qualités, c'est être gentil. Mais sans le petit côté niais, brave, un peu concon.
C'est ça, c'est devenu la gentillesse, c'est devenu une qualité un peu désuète. Et en fait, c'est un peu devenu une qualité ringarde. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de.
C'est pourtant la plus grande des qualités.
Ouais, c'est hyper important.
Vous êtes hyper gentil, vous.
Ouais. Oh, elle est gentille, Laura.
Ça se voit à votre tête. Non, mais c'est vrai, ça se voit à votre tête.
Bon, François, il y a quelque chose de très attachant aussi dans ce tueur à gages, je trouve.
Je sais pas.
Même s'il part un peu froid au début, il y a quelque chose de très attachant qui se dégage au fur et à mesure du scénario initié par, pour moi, c'est par Cécilia.
C'est le truc le plus intéressant, c'est faire un méchant qu'on a envie d'aimer, en fait.
Ah oui, ça, c'est très très fort. Ouais, c'est vrai, c'est très très. C'est bien dit, Cécilia.
Très bien dit, j'adore ça.
Ouais, c'est une... Bon, on va écouter la bande-annonce, on revient tout de suite après avec vous. Ça s'appelle Les Complices, ça sort le 12 avril au cinéma et on revient juste après.
Je suis un tueur à gages. Enfin, j'étais. Vous avez dû.
Hein? Comment tu vas faire si tu t'évanouis quand tu vois du sang?
Je vais me débrouiller. Le médecin dit que ce serait lié à un bouleversement émotionnel. Là, il faut qu'il m'explique. Je vais refuser tous les contrats et faire oublier.
Bonjour, on est nouveau voisin.
C'est du Crémant.
Ok.
C'est du Crémant d'Alsace. Le type, on lui offre une bouteille de Crémant, il dit pas merci, il dit ok.
C'est quoi votre travail ?
J'ai pas de travail. Oh là. Les anciens patrons veulent me tuer.
Et je peux pas partir maintenant que je suis complice ?
Pas maintenant.
Moi je veux de l'aventure. Et je sais pas, t'as jamais eu envie de tuer personne, toi ?
Non, j'ai jamais eu envie de tuer personne, non. On est en danger. C'est un tueur sanguinaire, ce mec.
Putain, il a fermé la porte, cet imbécile. Ça m'a rappelé le Vietnam, ouais, surtout le Vietnam.
T'as fait la guerre du Vietnam ?
En fait, je suis arrivé vraiment à la fin de la guerre, à l'extrême fin. À la limite, j'aurais même pas dû y aller. Ils étaient déjà en train de remballer quand je suis arrivé.
Donc, c'est qui a fait la guerre du Vietnam ?
C'est qu'il a inventé le piano aussi.
Mais non.
Karim.
Allez, retour spécial Les Complices aujourd'hui. Cécilia Roux, Laura Felpin, William Ligbill, François Damien sont nos invités. Et quel bonheur de vous avoir tous les quatre pour parler de cette comédie qui va faire du bien. On va parler de vos moments préférés peut-être et de vos scènes préférées dans ce film maintenant qu'on a planté le décor. Et on va commencer par les filles, parce qu'on est galants. Dans Chute, on écoute la télé. Laura.
Bon, on en a plein hein, des super avec François, parce que François est un grand farceur et c'est son truc préféré. Déjà, les premiers jours où on a tourné les premières scènes ensemble, il arrêtait pas de mettre du... tu sais, il y a quelqu'un qui vient clapper pour donner l'action et il mettait toujours une espèce de petit chewing-gum, enfin de la pâte à fixe pour que le clap ne marche pas. Donc déjà, je me suis dit tout de suite, au premier jour, il va être très drôle.
Tant qu'il ne met pas de la glu.
Exactement.
François.
J'ai une anecdote. William a fait un truc très marrant. On avait les talkies dans la voiture. Et il était passé sur le canal des régisseurs. Il avait fait croire qu'en fait j'avais eu un petit accident personnel et qu'il fallait ramener des lingettes, si vous voyez ce que je veux dire. Et on tournait, il y avait toute l'équipe technique qui était à 100 mètres. On les a vus tous courir en un coup. Et il y en a un qui est venu parce qu'il avait demandé que ça arrive discrètement. Et ils ont ramené des petites lingettes comme si j'avais eu un accident. Et on a vu tout ce manège au loin et on rigolait.
Je me faisais passer pour un machinot.
Ouais, c'est ça. Et tu disais terminé à chaque fois ?
Non, je disais pas terminé.
J'ai vu le film. Hein.
Oui, t'as vu le film, ouais.
Il y a dû y avoir des moments de drôlerie aussi, du coup. Donc, Cécilia, je vais te demander à toi aussi, du coup, quel a été ton moment de grâce derrière la caméra quand tu as vu par exemple ces trois-là jouer ensemble?
J'étais un peu loin de leurs blagues de plateau, même si j'ai assisté à certaines, mais c'était plutôt entre eux. Non, moi j'ai beaucoup de moments de grâce avec eux. Il y a une séquence que je trouve que j'aime beaucoup dans le film, c'est la séquence où François torture l'agent zéro et eux ils sont déguisés. Et William tapote pour que François ne voit pas le sang. Et cette séquence est très drôle, elle était extrêmement intéressante à faire.
J'aurais pas voulu prendre les calottes par contre, moi.
Ouais, et puis ils ont vraiment bien joué le jeu. Le gars qui joue l'agent zéro, qui est un cascadeur, Mathieu Lardo, a vraiment bien joué le jeu. Enfin, c'était hyper jouissif à tourner. Et puis c'était le jour de mon anniversaire et sur la dernière prise, ils ont pas coupé et ils ont tous chanté bon anniversaire. J'ai pleuré comme une madeleine parce que c'était je pleure tout le temps et que c'était vraiment un tournage avec beaucoup d'émotions hyper positives. On a créé vraiment des liens extrêmement forts et c'est moi je trouve que ça se voit dans le film. C'est le film quoi.
On aime bien aussi un truc qui était complètement con.
Qu'est-ce qui se passe, William? William est en train de décéder, en direct.
Dans une voiture, et puis on devait chaque fois sortir, donc en fait, la scène 20 fois. Et William raconte la suite. Et on posait une question à Cécilia.
En fait, c'est François quand même qui m'initiait à l'art du piège, à piéger les gens. Et du coup, il me disait, demande à l'assistant par quelle porte je sors. Mais du coup, il était toujours à la place conducteur. Donc évidemment, il sortait par sa porte. Et donc, à chaque fin de prise, je disais, François aimerait savoir par quelle porte il doit sortir. Il dit, quoi, mais ils sont vraiment chantés que les assistants, ils retournaient premier. Ils sortent par sa porte. Et je disais, oui, mais on pensait que vous vouliez qu'ils sortent par une autre porte.
Pour avoir une autre variante, quoi, tu vois, pour le montage, comme ça, Cécilia, elle pourra faire ce qu'elle veut après.
Et après, à un moment donné, ils se rendaient compte de l'absurdité et ça les faisait marrer, c'était très marrant.
En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un deuxième film tourné derrière, en tout cas en coulisses. Vanessa Paradis aussi au casting, on la nomme aussi parce que voilà, elle est très très bien aussi. Merci à tous les quatre, en tout cas, cette joyeuse équipe de venir nous présenter Les Complices. Ça sort le 12 avril au cinéma. Merci à tous les quatre.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Je vais prendre les devants. Je vais éliminer les commanditaires un par un. De leur nom et leur adresse.
Arrête de me tapoter, putain!
Ouais, mais si tu le retapes à chaque fois, ça sert à rien que je tapote. C'est un boulot, faut le faire, c'est tout.
Mais non, mais je suis pas un tueur, moi.
Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais hein?
Tu es un putain de petit fan gentil.
C'est pas possible de vivre avec quelqu'un qui rentre avec un morceau d'oreille humaine dans la poche.
Oui, ça va. Oreille humaine, ça arrive une fois.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, encore deux très belles équipes de films. On aura le plaisir de recevoir l'équipe du film Une histoire d'amour. Alexis Michalik sera là avec toute une partie de son casting. Juliette Delacroix, Marie Cassoyer ou encore Pauline Bression seront là. On aura également le plaisir de parler du film Le Prix du Passage. Thierry Benici, le réalisateur, sera accompagné de ses deux comédiens principaux, Alice Izaz et Adam Bessa. Et puis, coup de cœur télé également. On continue à fêter les 10 ans de Léo Mattei avec Stomy Bugsy, qui sera là. On parlera également musique avec lui.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.